Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour un épisode un peu particulier du CKB Show puisque je suis tout seul. Je ne suis pas tout seul mais je ne suis pas avec Nico, donc c'est Thomas qui vous parle et je suis avec deux invités très spéciaux puisque je suis avec Prof du Web et Pod. Salut les gars, comment ça va?
Salut.
Ça va?
Salut.
Donc on va vous parler d'un sujet qui est particulièrement tendance puisque on en parle en tout cas en France, même dans les journaux nationaux. On va vous parler de Huawei et de Google. Et l'occasion de cette émission, en fait, c'est que j'ai vu Pod et Matt, alias Prof du Web, interagir sur Twitter et je leur ai dit « attendez les gars, au lieu de parler sur Twitter en 140 caractères ou 280 caractères maintenant, pourquoi est-ce que vous viendrez pas dans le CKB Show pour discuter un petit peu du sujet ?» Et voilà, et donc très gentiment, ils ont accepté et donc 24 heures plus tard, nous voilà en train de discuter du sujet. Donc merci à vous.
Merci à toi de nous avoir proposé.
Un vrai podcast nord-américain, ça fait plaisir,
Français. Exactement, ouais. On enregistre, pour vous donner un petit peu une idée, on enregistre à 2h du matin, heure française, donc malheureusement Nico n'a pas pu se joindre à nous, mais je lui ai parlé ce matin, il m'a laissé quelques questions, donc il ne sera pas complètement absent de ce podcast. Donc pour résumer super rapidement la situation, je vous parle en fait de Huawei et de Google, donc de quoi est-ce qu'il en est. Les journaux nationaux, comme je disais, en parlent beaucoup, donc je pense que vous savez à peu près de quoi il en retourne, mais en gros il y a une guerre des tarifs, j'allais dire, donc des douanes entre guillemets, entre
barrières douanières,
ouais voilà, c'est ça, entre les États-Unis et la Chine en ce moment. Ça se manifeste à plein de niveaux, enfin pour être aux États-Unis et suivre les informations nationales, on en entend parler beaucoup, en particulier pour les producteurs de soja qui ont beaucoup de mal à écouler leur stock puisque la Chine est un des plus gros consommateurs du soja américain. Forcément c'est pas le sujet du podcast du jour, mais ça se manifeste aussi par les grandes sociétés tech chinoises et en particulier Huawei. Donc faut savoir que Huawei qui est aujourd'hui en passe de devenir le numéro un mondial de la production de smartphones est quand même un peu dans le viseur des États-Unis depuis déjà plusieurs mois, et pas particulièrement pour cette affaire de Google et de Huawei qui est assez récente finalement, mais essentiellement pour les questions de 5G, parce que Huawei, si vous écoutez les news tech, vous le savez, est très 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 bien positionné depuis plusieurs mois, voire même quelques années, sur l'arrivée de la 5G, à tel point qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment grand monde qui aurait les capacités du point de vue technique de les concurrencer directement. Et le problème, c'est que les États-Unis estiment que Huawei a un penchant un tout petit peu trop proche du côté des militaires chinois, pour des raisons qu'on évoquera probablement un peu plus tard, et donc du coup a presque dans un premier temps demandé à tous ses alliés de ne pas utiliser des infrastructures de type réseau de la part de Huawei, ce qui a pas forcément très très bien marché. Je sais pas si c'est lié, c'est un peu l'objet du débat, je vous rassure, j'ai bientôt fini de parler, je vais vous donner la parole les gars. Mais donc du coup la deuxième étape et le deuxième chapitre en fait de l'histoire, c'est ce qui s'est passé ce week-end avec on va pas forcément rentrer trop dans les détails juridiques, mais en gros une très forte incitation de la part du gouvernement américain à demander à toutes les sociétés américaines d'arrêter de travailler directement avec Huawei, et pas toutes les entreprises chinoises d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui cible Huawei, et donc ça s'est traduit par Google qui a annoncé qu'il arrêtait tout partenariat direct, en particulier la collaboration sur Android avec Huawei. Et voilà, et donc c'est le sujet du jour, ça y est, j'ai fini de parler. Je vous donne la parole à Mathieu, Pod, qui est-ce qui veut commencer?
Ben, honneur à Pod, vas-y.
Ok, très bien. Alors, c'est pas juste Huawei, y a aussi ZTE qui est oui, merci, tu m'évites une vulgarité. Merci Matt de voler à ma rescousse. Donc il y a aussi ZTE qui a aussi cette double étiquette d'équipementier et de constructeur de téléphone. C'est pas juste Google qui rompt les liens avec ces deux entreprises chinoises, hein, mais puisqu'il y a aussi Intel, Qualcomm et tout un paquet de monde. Et donc ça touche pas juste la partie logicielle, même si c'est celle qui va prendre en plus nous intéresser aujourd'hui. Pour donner peut-être un petit peu de contexte, Android, c'est un système d'exploitation qui est développé par l'Open Handset Alliance. L'Open Handset Alliance, c'est plus de 200 entreprises. Évidemment, Google est un rôle pas mal de chef d'orchestre dans ce développement, mais n'est pas l'éditeur au sens légal du terme de l'OS, qui est un logiciel libre et qui pourra donc continuer à être utilisé par Huawei. Ce qui concerne cette histoire, c'est ce qu'on appelle la licence GMS, donc les Google Mobile Solutions, qui inclut le Play Store, Gmail, YouTube et la plupart des applications que les utilisateurs connaissent bien, Maps, etc. La marque Android en tant que telle, parce que si l'OS appartient pas à Google, la marque par contre appartient à Google. Et toujours pour être dans le contexte, Huawei c'est le deuxième fabricant de téléphones. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il ne vend pas seulement en Chine, hein, puisque un peu plus de 50% de ses ventes se font en dehors de Chine, principalement en Europe, puisqu'aux États-Unis, il me semble qu'il n'est pas vendu de façon tout à fait légale, mais pas seulement, hein, puisqu'on le trouve au Canada et dans d'autres endroits du monde.
Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'on parle de Huawei, et, ça inclut aussi la marque Honor, et j'imagine probablement d'autres marques qui sont peut-être moins connues aussi, encore que là, j'en suis pas
convaincu. Oui, ils ont tout un nombre de marques locales, locales entre guillemets. On me voit pas faire les guillemets, alors fermez les yeux, imaginez-moi. Mais effectivement, Honor qui est bien connu en Europe de l'Ouest et particulièrement en France, mais il y en a d'autres dont les noms m'échappent, qui sont sur le même concept, hein, d'avoir des téléphones taillés plus spécifiquement pour un marché donné, voilà, avec une autre marque.
Et d'ailleurs, Honor est présent aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le Canada. Par contre, comme tu l'as dit, Huawei n'est pas présent au Canada. Donc, c'est assez bizarre. N'est pas présent, pardon, aux États-Unis. Donc, c'est assez bizarre. En gros, il y a la marque officielle du fabricant n'est pas présente. Par contre, Honor est bien présent. Et ils ont présenté d'ailleurs un nouveau téléphone aujourd'hui. Donc, c'était pas forcément le timing idéal.
c'est ça.
Mais voilà. Mais alors, du coup, prof du web, t'as fait un petit streetcast sur la question ce matin. Donc, je te donne la parole. Comment toi tu vois les choses de ton côté? Je sais que t'avais une opinion assez tranchée par rapport à la position américaine sur Huawei. Est-ce que t'as changé d'avis ou est-ce que tu continues à penser la même chose?
Ben, en fait, ce qui arrive à Huawei, c'est purement, ils en sont. En fait, petite histoire, parce que j'aime beaucoup l'histoire d'informatique, et faut se rappeler qu'il y avait eu déjà des problèmes avec le Canada et Huawei. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de Nortel, qui est une ancienne compagnie de télécommunications, en fait.
Oui,
Qui vendait toutes sortes d'appareils de télécommunications à l'époque, là, plus filaires que maintenant. Et il y a beaucoup de rumeurs qui ont sorti, comme de quoi que Huawei a pompé beaucoup d'informations de chez Nortel, que Huawei a pompé beaucoup de brevets de chez Nortel, et comme par hasard, Nortel a plongé. Alors, il y a un contexte économique à ça, il y a eu toutes sortes de choses, mais parallèlement à ça, dans ces années-là, Huawei a monté. Alors, bon, en tant que bon Canadien, je ne serais pas un cocorico parce que nous, c'est plus des castors, puis ça fait pas de bruit, mais ça me fait pas trop de peine ce qui peut arriver à Huawei. Par contre, ce que j'aime pas de ça, c'est que c'est pas le marché qui décide. C'est un axe politique, géopolitique, et puis c'est là où c'est un peu gênant dans toute l'histoire au niveau de Huawei. Par contre, en tant que Canadien, avec ce qui est arrivé à Nortel ou les suppositions de ce qui est arrivé à Nortel en 2007, 2006 et ainsi de suite, par rapport à Huawei, ça me fait. J'ai un petit sourire en coin, mais c'est jamais plaisant de voir ce qui arrive, et surtout que c'est pas les vraies lois du marché qui sont dictées présentement. C'est une guerre économique qu'il y a entre les États-Unis et le reste du monde, parce que nous aussi, on y goûte au Canada avec les États-Unis, avec toutes sortes d'accords qui sont brisés en ce moment. L'Europe aussi y goûte, la Chine aussi y goûte. Mais ce qu'il faut juste se rappeler, c'est que Huawei, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste de fermer les échanges entre les États-Unis et la Chine par Huawei, c'est qu'il y a toutes sortes d'équipementiers qui vont y goûter aussi, puis des fois des équipementiers américains, des fondeurs, des gens qui participent à l'économie globale. Maintenant, c'est pas aussi noir ou blanc l'économie, puis les échanges commerciaux. Il y a quand tu donnes, tu reçois, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes d'échanges. Alors, je suis tranché parce que ça me fait un peu rire ce qui est arrivé à Huawei, ils vont s'en sortir, ça va revenir. D'ailleurs, grand scandale, pas scandale, mais grand revirement.
Rebondissement, ouais.
Rebondissement, le gouvernement américain dit, ouais, ben, finalement, on va laisser 90 jours à Huawei pour trouver des solutions, pour... On a vraiment affaire à un gouvernement bébé, très émotif en ce moment, américain, qui fait des actions aussi vite que son président sur Twitter et qui réfléchit des fois après avoir agi. C'est ça juste le problème en ce moment. Mais maintenant, oui, je suis un peu tranché, ça me fait rire en tant que Canadien.
Ouais, ouais, c'est, enfin, j'ai beau être l'américain de l'État, faut pas compter sur moi pour défendre le président en place. si tu parles de Nortel, alors moi, je pourrais presque te faire la version française de cette histoire-là avec Alcatel. Pour la petite histoire, au cours de mes études, en gros, j'ai une formation d'ingénieur télécom, donc c'est un sujet à l'époque où en tout cas à une certaine époque auquel je m'intéressais pas mal, et j'ai étudié à un endroit où il y a eu d'ailleurs en France un centre de recherche Huawei qui s'est ouvert, qui a embauché beaucoup de stagiaires, qui a embauché beaucoup d'ingénieurs qui venaient d'Alcatel, qui avait aussi son centre de recherche juste à côté. Et un jour ou l'autre, un jour comme ça, le centre de recherche a fermé. On va dire que ça laisse pas forcément un très très bon souvenir local sur la compagnie en question. Donc clairement, enfin oui, c'est clair que on va dire que Huawei a eu des pratiques pas forcément très très claires pendant tout un moment. Bon après, est-ce que c'est une raison suffisante pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui? Je sais pas trop. Et puis bon, faut aussi dire que finalement, leur activité équipementier, pour reprendre le terme qui est le bon d'ailleurs qu'utilisait Pod, c'est quand même assez différent de ce qui se passe du point de vue des téléphones. Et là, pour revenir un petit peu sur le sujet qui nous intéresse, enfin, c'est comme le dit Patrick qui avait enregistré un épisode sur la question du rendez-vous tech, c'est un peu l'option nucléaire en fait. Avoir d'un coup Google qui dit à partir de maintenant, on vous donne plus accès à Google Play Services, on vous donne plus accès à Google Play, et donc en gros vous vous débrouillez tout seul quoi, vous faites comme vous faites en Chine, hein, comme tu le disais très bien Matt ce matin. C'est vrai qu'en Chine les téléphones Android qui sortent en Chine n'ont pas Google Play Services, n'ont pas Google Play, n'ont pas Google Maps, mais malgré tout 50% c'est ça, hein, 50% de leur marché c'est le marché en dehors de Chine. Donc ça veut dire que pour 50% de leur marché, il va falloir qu'ils improvisent. Et en fait, c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser, peut-être à toi Paul, pour que tu reprennes la parole. Qu'est-ce que ça donnerait un Huawei qui n'a pas accès à Google Play, qui n'a pas accès à Google Play Services?
Pas mal de scénarios qui peuvent se dérouler. En tout cas, en Chine, ça fait longtemps qu'il y a plusieurs OS, là encore, fermez vos yeux, imaginez-moi faire mes guillemets avec les doigts, qui ont été développés. Il y en avait un qui avait un genre de consortium derrière, un petit peu comme l'Open Handset Alliance pour Android. Ça s'appelait Open Mobile System, OMS. Je pense que depuis, ce truc est mort, mais les sources servent encore à faire des forks dans tous les sens. Et donc, en gros, il y a plein de distributions d'Android qui sont plus ou moins brandées différemment, ou pas forcément, et qui n'inclut évidemment pas les Google Play Services. Il y a plusieurs alternatives. Huawei a ses propres alternatives. Baidu a les siennes. Et donc, en Chine, effectivement, ça fonctionne sans Google Play Services. Le marché chinois y est adapté. Il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent très bien pour eux. À l'extérieur de la Chine, pour autant, ça va être très très compliqué d'utiliser ces applications parce qu'elles sont vraiment très sino-chinoises. Pas juste en termes de UI, parce que là, clairement, ça va pas très très bien marcher en Occident, mais même en termes de fonctionnalité. Hein, c'est pas du tout ISO à ce qu'on a chez Google. Et même si le marché du software était ouvert en Chine, comme il l'a d'ailleurs été à un moment donné sous condition auquel Google s'était plié, et Google avait pas particulièrement bien performé en Chine, parce que voilà, c'est pas forcément les fonctionnalités que les Chinois attendent. Donc, la version Android de Huawei sans Google, elle aurait quand même beaucoup, beaucoup de mal à fonctionner aujourd'hui en Europe. Si on replonge un petit peu dans l'histoire, ce serait quand même pas la première fois qu'on essaye de dégoogliser Android. Et il y a deux acteurs nord-américains qui ont fait ça par le passé. Le premier, c'est Microsoft, qui avait sorti pour les marchés émergents une distribution d'Android.
Oui. Sur Nokia.
Exactement, ouais, sur la marque Nokia, aux saveurs de Microsoft. Et pour ça, donc, ils avaient remappé toutes les API de Google avec plus ou moins de succès. Oui, il y avait un store. Oui, il y avait deux, trois trucs qui fonctionnaient. Mais par exemple, si on a des fonctionnalités de geofencing dans son application, et ben là, il y avait quand même des grosses disparités de performance. Il y avait d'API qui était tout simplement manquante, hein, donc qui renvoyait des fausses valeurs ou pas de valeurs. Et donc, malgré tout le budget que Microsoft a pu consacrer à ce projet-là, eh ben, on n'a pas eu des fonctionnalités ISO et depuis le projet est mort. L'autre acteur qui avait fait ça, c'est BlackBerry, RIM à l'époque,
ouais.
Qui avait eu une autre approche. Qui n'était donc pas celle d'utiliser Android avec leur propre service, mais d'utiliser leur propre OS avec le runtime d'Android, donc qui permet de rouler les applications Android. Donc là encore, quand l'application Android, elle n'utilise aucun service Google, il y a zéro problème, comme dans le cas de Microsoft. Par contre, lorsqu'elle utilise des services de Google, ben là c'est pareil, il y avait un espèce de remapping. Donc quand on uploadait son application sur le store de BlackBerry, il donnait un indice de compatibilité. Et puis c'était pas tout à fait compatible, mais que les quelques API de Google qu'on utilisait, il les avait, ben là on pouvait faire un effort de dev et s'adapter. Et puis sinon, ben tant pis. Là aussi, c'est un projet qui projet, c'est passé en prod, hein, mais clairement, ça n'a pas eu les retours que BlackBerry de son côté et Microsoft de l'autre ont escompté de ces histoires-là. Et Huawei risque de se frotter aux mêmes enjeux d'avoir, et surtout qu'on est quelques années après, on a des services Google qui sont hégémoniques, de plus en plus importants sur la plateforme. Hein, on a tendance à dire que Google I.O., on n'annonce pas des nouvelles fonctionnalités d'Android, mais des nouvelles fonctionnalités des Google Play Services. Donc, ça va être très, très dur de matcher le niveau de fonctionnalité de Google.
Tu as parlé de BlackBerry et de Microsoft. J'ai un autre exemple qui me vient en tête et je vais redonner la parole à Matt là-dessus. C'est aussi le fameux Fire OS d'Amazon.
Bah ouais, à God Seattle, j'espère que tu vas parler d'Amazon. Oui. Et 2011.
Voilà, c'est ça. Et donc, il y avait le fameux Fire Phone, hein, dont tout le monde se rappelle, qui a marqué les esprits. Non, je rigole. Qui a complètement été un four complet. Enfin, je sais pas. Est-ce que toi, Matt, t'as des tablettes Android d'Amazon, des Fire tablettes?
Alors, s'il y a bien un écosystème qui vit depuis 2011, sans Android, sur Android, en fait, sans Google, sur Android, c'est bien Amazon, avec toutes les services qui sont offerts sur tablette, Fire HD, et ainsi de suite. D'ailleurs, ils arrêtent toujours pas d'en produire. Et le stick, le Fire Stick sur Amazon,
mm-hmm.
Il y a tout un écosystème qui s'est développé d'applications sans avoir aucun service. Et pour preuve, Amazon était en conflit avec Google il y a pas encore longtemps. On n'avait pas toute la suite Google, YouTube, et ainsi de suite. Et puis, ça fonctionnait quand même. Bon, est-ce que c'est la vraie expérience Google comme on aimerait l'avoir? Non, c'est sûr que non. C'est différent, c'est autre chose, mais ça peut vivre quand même.
Ouais. Et puis c'est pas des téléphones aussi, donc finalement c'est des outils ou des appareils avec des usages qui sont un peu plus restreints, on va dire. C'est t'as moins sur une tablette d'Amazon, t'as moins besoin d'avoir, je sais pas, les cartes par exemple, tu vois, ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que oui, comme tu l'as dit, ça existe. Faire parler Nico à travers ma voix. Donc Nico, ce matin quand je lui ai parlé, lui aussi il était assez optimiste, on va dire, sur la capacité à Huawei, si jamais, alors comme on a dit, hein, là, a priori, il semblerait que le gouvernement américain lève un peu le pied, donc du coup, peut-être que Google va revenir en disant, bon, en fait, pour l'instant, ça va, vous pouvez continuer à utiliser Android, ou en tout cas Play Services. Mais oui. En gros, Nico disait, temporairement, on peut très bien imaginer, en fait, un OS qui n'a plus Maps, mais qui a, par exemple, un lien vers Google Maps sur le web mobile, le fait qu'aujourd'hui il y ait les PWA, j'essaie de le dire en franglais, donc PWA en français, les Progressive Web Apps, ouais. Et le fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de sites web qui, une fois qu'on a caché la page et qu'on a mis la page en cache, en mémoire cache, et qu'on a ajouté un lien sur le home screen, finalement on se retrouve avec quelque chose qui ressemble énormément à une application native, sauf que ça tourne avec des technologies web. Etc. Donc, Nico, en gros, disait, finalement, peut-être qu'il y aurait un moyen temporaire de contourner le fait de pas avoir accès à toutes ces applications natives. Et puis, forcément, Huawei étant fort de 180 000 ingénieurs, ils ont la force de frappe, entre guillemets, pour développer des applications alternatives et faire en sorte d'avoir, un système d'exploitation ou une distribution, comme disait Pierre,
le truc c'est si on prend cet exemple d'outil cartographique, juste avoir la localisation de l'utilisateur, ça aujourd'hui ça passe presque exclusivement par les Google Play Services, puisque si on fait encore une fois un petit bond en arrière, à l'époque dans les contrôles d'Android on avait le choix entre avoir le GPS uniquement, avoir la localisation par les antennes GSM, et puis arriver la fonctionnalité de localiser par les réseaux Wi-Fi environnants. Cette fonctionnalité-là, elle vient des Play Services, elle n'est pas dans Android, c'est un service Google. Et aujourd'hui, dans les dernières versions d'Android, il n'y a même plus cette finesse de configuration-là, il y a juste est-ce qu'on veut économiser de l'énergie ou est-ce qu'on peut aller à fond pour localiser, l'immense majorité des requêtes de localisation, elles se font pas en premier sur le GPS, elles se font en premier sur les Google Play Services. Donc oui, on peut avoir une progressive web app vers Maps, mais ce qui va se passer, c'est que on va revenir à l'époque où ça prend une minute ou deux d'avoir un fixe GPS pour pouvoir se voir sur la carte.
Ouais. Ah, on est tous d'accord, c'est clair que ce sera, en tout cas au début, pas aussi performant que d'avoir du natif, mais malgré tout, ça peut être une solution temporaire, on va dire.
Et fonctionnelle.
Et ouais, c'est ça, et fonctionnel. Après en fait moi comme je disais, donc Nico est assez optimiste, j'entends que Matt a l'air d'être globalement assez optimiste, toi Pod t'es un peu plus sceptique. Moi ce que je me dis en fait, c'est que c'est peut-être le début d'une nouvelle ère en fait, et qu'en gros c'est un peu je sais pas si vous vous rappelez de cette époque où on disait oui, être capable de fabriquer des processeurs c'est stratégique, etc. l'époque où en France Matra fabriquait des processeurs qui étaient absolument pas compétitifs, mais en gros on se disait si jamais un jour les Américains nous coupent l'accès à Intel, on aura les moyens en interne de continuer à faire des ordinateurs français, monsieur, parce qu'on aura la capacité de production de microprocesseurs. Bon, autant dire qu'aujourd'hui ça a complètement disparu. Mais c'est vrai qu'en fait c'était des menaces qui étaient très virtuelles en fait. On se disait bon, un jour peut-être que les Américains nous comprendront l'accès, mais en espérant bien dans le fond que ça n'arrive jamais. Et je pense que il y avait un peu de ça avec Android et les smartphones qui sont aujourd'hui ce qui a un peu remplacé les ordinateurs, enfin du point de vue stratégique en tout cas, l'accès à l'informatique et à l'ordinateur dans les années 90. Aujourd'hui, c'est clair que le smartphone, c'est à la fois quelque chose qui est de la consommation courante et en même temps, c'est l'essor de la Chine aujourd'hui, c'est essentiellement grâce à l'électronique et en particulier grâce au smartphone. Donc c'est éminemment stratégique. Et c'est vrai que là c'est un peu quelque chose qu'on pensait virtuellement possible mais qui n'était jusqu'à maintenant jamais arrivé. Et du coup je me dis peut-être que la Chine va prendre la chose et la menace très au sérieux et va se mettre à fabriquer, alors que ce soit une initiative étatique ou pas, son propre système d'exploitation et son propre sa propre offre commerciale autour d'un système d'exploitation qu'il contrôle pour entre guillemets prendre un petit peu le champ par rapport à aux États-Unis du point de vue du développement de systèmes d'exploitation mobile. Je sais pas ce que vous en pensez.
Moi personnellement, ce que on s'en doutait un petit peu tous de ce qui allait arriver. Même Samsung a déjà commencé à développer son système d'exploitation. Je pense que c'est un vieux système qu'il a repris, c'est Tizen. Ben, PO, je veux juste pas dire des conneries, mais...
Ah non, c'est bon.
C'est ça, hein, c'est Tizen que Samsung a développé. C'est une prise de conscience sur la dépendance que tous ces fabricants-là ont par rapport à Google. L'autre aussi, l'autre prise de conscience que je vois, c'est que, dans le fond, qu'est-ce qui fait la différence entre un iPhone puis un Android? Ben, c'est que l'intégration verticale de tout le produit, du logiciel jusqu'au hardware, c'est un des avantages qu'a iPhone, qu'a Google avec Pixel, mais que les autres fabricants, LG, Samsung, et ainsi de suite, ben, peuvent pas maximiser. Faut toujours redévelopper, faut toujours faire des choses comme ça à côté, et puis ils n'ont pas une intégration parfaite et vraiment bien intégrée par rapport au système d'exploitation et le matériel. La prise de conscience, je trouve qu'elle est vraiment cool dans la mesure où il n'y a pas de changement sans crise. Là, il y a une crise. Il y a certaines personnes qui vont commencer à se dire, ah, ouais, OK. Ben, peut-être que l'idée de Google avec son, de Google et de Apple, ben, c'est pas mauvais une intégration verticale. Maintenant, le problème, c'est, ben, d'avoir des magasins, des stores d'applications assez garnis pour attirer les gens en disant, ben, moi, j'ai aussi Facebook, j'ai aussi Twitter, j'ai aussi Instagram. Et puis, ben, les développeurs, ben, vous pouvez faire aussi de l'argent chez moi. C'est ça qui va être compliqué à faire. C'est pas du tout que Huawei fasse ces trucs.
Et ça existe déjà, en fait. J'allais te dire, Samsung a Samsung Apps qui existe depuis, je sais pas, peut-être pas plus de 10 ans, mais depuis très très longtemps, depuis au moins 5 ans, voire plus. Qui est-ce qui aujourd'hui a un téléphone Samsung et installe les apps à partir du store de Samsung? Les gens en général installent les apps à partir du Play Store, donc enfin de Google Play. Donc je pense que, enfin je comprends ce que tu veux dire et je suis absolument en accord avec toi. Après, entre se dire que c'est une bonne idée de le faire et réussir, c'est deux choses qui sont très très différentes, quoi.
Oui, totalement. Mais tu vois, le c'est peut-être le début de la fin de la guerre entre les apps natives et les web apps. Parce que peut-être que finalement, tout ce qu'on avait dit au début des web apps qui étaient interopérables, que tu n'avais pas besoin de développer sur plusieurs écrans et ainsi de suite, tu sais, le responsive et tous ces avantages-là que tu avais dans les web apps, comme tu disais, le PWA, ben, c'est peut-être la force qui va faire que... En fait, c'est peut-être l'événement qui va faire que les web apps vont être de plus en plus utilisées et qui, en bout de ligne, ben, va y avoir une intégration verticale, mais de la machine et de l'OS, tout simplement. Tu sais, moi, j'ai essayé un P20 Pro dernièrement avec juste de brancher le P20 Pro dans une sortie HDMI et puis d'avoir le mode fenêtré de Huawei directement sur un ordinateur. C'est vraiment chouette. Après ça, tu utilises quoi? Tu utilises une suite bureautique si t'es un peu... Si t'en as besoin, Internet majoritairement. Et puis après ça, ben les spécialistes, de toute façon, ils vont se retrouver sur des ordinateurs normaux. Alors, je pense que c'est peut-être un début d'avenir pour les web apps qui commençaient à péricliter, je pense. En tout cas, c'est mon analyse. Je sais pas, toi, ce que t'en penses, PO?
Je suis assez d'accord, surtout que les applications natives pour Google, ça a toujours été un mal nécessaire. Ils s'en sont jamais vraiment cachés. Et leur objectif, ça a toujours été de migrer rapidement vers le web. Simplement, pendant très longtemps, ben, un certain nombre de facteurs faisaient que c'était pas mûr. La bande passante, la vitesse d'exécution de JavaScript, parce que JavaScript, c'est de la petite marde. pardon, là, je l'ai dit tout haut. Excusez. Ouais. Bref, voilà, tout un paquet de raisons. Côté iOS, c'était aussi un mal nécessaire. Hein. Le SDK était pas particulièrement prévu, en tout cas à la première conférence de développeurs pour iPhone, fallait faire des widgets, puis les widgets c'était des petites applis web. Donc là, on a vécu effectivement 10 ans avec les applications natives. Je pense que y a plein d'acteurs qui sont prêts à tirer, ou en tout cas qui veulent stratégiquement tirer la plug dessus. Et effectivement, ça peut être le coup de fouet qu'il fait. Maintenant, je trouve quand même que la façon dont ça se passe, c'est pas la façon idéale là, parce que tout le monde est un petit peu en mode panique et on risque d'avoir une ou deux années assez mouvementées avec beaucoup d'essais-erreurs au lieu d'avoir une stratégie claire et une migration progressive comme la plupart des acteurs l'auraient souhaité.
Mais tu vois, moi je trouve que finalement ça donne encore plus de sens, puis là je vais boucler la boucle, tu vas être content Thomas, ça donne plus de sens à Chrome OS, parce que Chrome OS qui est plus à saveur web, avec un navigateur, puis certaines applications web avec pas nécessairement, là maintenant il y a l'Android Store dessus, là, mais à la base c'était plus un système web, je trouve que ça fait plus de sens encore d'aller vers un Chrome OS maintenant, en sachant qu'il y a potentiellement avoir encore plus d'apps, de web apps.
Ouais. Alors malgré tout, ça va pas résoudre les problèmes de Huawei puisque Chrome OS est forcément très très rattaché à Google. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, alors bon, étant développeur d'applications à plein temps, j'avoue que quand j'entends dire progressive web app pour remplacer les apps natives, ça me fait pas forcément chaud au cœur. Mais malgré tout, c'est vrai que ils vont enfin, si les choses restent telles qu'elles sont et que Google décide de fermer les portes d'Android à Huawei pour de bon, il va forcément se passer quelque chose, parce que je pense pas que Huawei va se dire on arrête, on change, on va faire des slips de main à la place. Je pense qu'ils vont forcément.
C'est certain qu'ils vont pas baisser les bras. Hein. Voilà, c'est ça. La seule entreprise qui est en croissance de vente. En quelques années à peine, elle s'est hissée à la deuxième place du marché. C'est sûr qu'ils vont pas juste dire oh ben tant pis.
Ouais. Et moi, il y avait une idée un peu folle ce matin qui m'est passée par la tête. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je parlais des Samsung Apps tout à l'heure, qui est le store de Samsung. Pourquoi est-ce que Samsung proposerait pas à Huawei d'installer, de pré-shipper les téléphones Huawei avec le store Samsung, qui est à mon avis aujourd'hui un des plus gros stores d'applications alternatifs, en tout cas à l'extérieur de la Chine. Mais je pense qu'on va vraiment voir les choses changer, quoi. C'est d'une façon ou d'une autre, Android, à cause de ça, sera pas, enfin, si les choses restent telles qu'elles sont, Android sera clairement pas tel qu'il aurait pu être si Huawei avait continué à accéder à Google Play. Et ça prendra peut-être 2, 3, 4 ans, mais c'est clair que les choses vont changer.
Le truc, c'est, puis là, je vais revenir sur ce que disait Matt en parlant d'intégration verticale, c'est que si ça va dans cette direction, et pour un certain nombre d'autres facteurs, Google pourrait être tenté de tirer la plug sur Android et de basculer sur Fuchsia ou tout autre écosystème beaucoup plus intégré. Effectivement, moi, je peux pas m'empêcher, puis c'était la source de ma frustration sur Twitter, de trouver que les écosystèmes, c'est la mort des plateformes. Puis je suis fondamentalement un gars de plateforme.
Mais alors, quand tu dis plateforme versus un écosystème, peux-tu me définir qu'est-ce qui est pour toi une plateforme?
Pour moi, quand on a une plateforme et qu'on veut porter son application sur une autre plateforme, il n'y a pas grand chose à faire à part rebuilder. On dépend pas de la présence ou l'absence de fonctionnalités. On est quand même dans des choses interopérables. iOS, c'est pas une plateforme. C'est un écosystème. C'est fermé. Il n'y a pas d'autre façon de distribuer son application que sur l'App Store. Le NFC, ce sera toujours Apple qui le contrôle. Le background processing, ça sera toujours un service de l'OS à qui tu demandes gentiment le droit de t'exécuter, etc., etc. Là où fonctionne exactement comme n'importe quel OS de desktop et ouvert de la même façon qu'un OS de desktop pour le moment, mais ça fait déjà quelques années que Google avance tranquillement, petit à petit, ce qui, à mon avis, est la mauvaise direction, mais ce qui, financièrement, est clairement la bonne direction pour eux, ouais. Qui est celle d'un écosystème intégré.
Mais même pour les utilisateurs, je dirais jusque-là, les utilisateurs veulent des écosystèmes, les utilisateurs veulent des choses qui, quand on connecte, ça fonctionne, les utilisateurs veulent de la sécurité. Pendant combien d'années Microsoft a subi des drivers de merde pourris pour supporter des vieilles cartes graphiques, comme un peu certaines versions d'Android qui supportent des vieux téléphones encore longtemps. Et je pense que moi, les utilisateurs sont prêts aux écosystèmes. Maintenant, pour un dev, je peux comprendre que ça fasse un peu mal, ça fasse un peu mal au cœur, mais je pense que Android a été une exception dans l'histoire de l'informatique. Il y avait toujours eu des écosystèmes. Il y en a, mais de toute façon, la vie est écosystème. Tu choisis ton village, tu choisis ton pays, c'est des écosystèmes. C'est pareil pour les systèmes d'exploitation. Tu peux pas rouler une application qui est faite pour Windows sur Mac, sur Linux, et ainsi de suite. Il y a toujours eu ces écosystèmes-là. C'est juste que tu étais dans dans Android, dans l'univers Android, et puis jusqu'à maintenant, beaucoup de téléphones fonctionnaient, mais l'expérience était pas chouette tout le temps, là, malgré tout. Là.
Je pense que là-dessus, on sera pas, forcément d'accord.
C'est ce que j'allais dire, là. J'allais dire ding, 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 fight, pas à toi de répondre. J'ai un peu l'impression que c'est en gros le fast-food versus cuisine à maman préparée à la maison, en fait.
Mais il y a des belles intégrations d'Android sur des téléphones. Mais il y a aussi beaucoup de cochonneries, là.
Non, mais je suis pas du tout en désaccord avec toi. Après, c'est vrai que c'est au bénéfice d'une certaine diversité en fait. Donc, comme tu dis, l'avantage c'est que quand t'as une seule entité qui contrôle tout avec une pomme sur leur logo, du coup, c'est clair que les choses sont beaucoup plus clean et beaucoup plus contrôlées. Et puis, à l'inverse, quand t'as combien tu disais Open Onset Alliance 2500 acteurs, c'est ça? 200 acteurs.
C'est déjà difficile de s'entendre. 200, exagérons pas, mais effectivement, c'est un peu plus de 200 entreprises.
Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est juste les gens qui fabriquent des devices, mais après, ou potentiellement aussi les gens qui fabriquent des chipsets aussi, j'imagine. Mais
il y a les chipsets, il y a des opérateurs telco, il y a aussi des fondeurs. Intel est membre, par exemple. Il y a 4 catégories d'entreprises.
Voilà. Donc, entre les gens qui veulent faire tourner Android sur leur machine à laver et ceux qui veulent fabriquer un téléphone pour concurrencer l'iPhone, c'est vrai que ces gens-là, ils ont, entre guillemets, des contraintes qui sont complètement différentes. Et du coup, ils vont pas forcément, se mettre d'accord sur tout le temps, quoi. Donc c'est vrai que pour en revenir à ça, Android, ça continuera à être un joyeux bordel sur les côtés, et puis quand même un OS qui est assez compétitif et pas trop mal fait au milieu. Tu parlais dans ton streetcast, tu parlais du Pixel 3A. Là, j'ai reçu le mien la semaine dernière et je l'ai activé ce matin pour l'utiliser à temps plein. C'est vrai que c'est quand même un super téléphone qui est complètement il concurrence pas directement les iPhones parce que c'est quand même du milieu de gamme du milieu de gamme, mais ça reste un très très beau téléphone et un téléphone qui est très chouette à utiliser, quoi. Et c'est clair que on continuera à voir passer des téléphones chinois un peu merdiques, genre le Royal par exemple. Donc tu vois, ça te permet d'avoir le premier téléphone pliable. En même temps, tu te dis quand tu l'as en main que t'en avais peut-être pas forcément besoin, mais en attendant, ça permet d'être la plateforme qui accueille le premier téléphone pliable. Et je pense qu'Android va continuer à être ça aussi.
Le truc, tu vois, c'est en Europe. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui vit en Europe aujourd'hui. Je vois que Huawei a plus accès aux Play Services. Puis finalement, si pendant 90 jours, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après, que ZTE est dans le même bain, et donc potentiellement toutes les entreprises chinoises, même si on comprend bien que pour le moment, c'est la partie équipement réseau qui drive un petit peu ce scandale, ça pourrait s'élargir, et donc finalement en Europe, dépendamment du pays où je suis plus ou moins pogné avec juste Samsung, parce que faut rappeler que Pixel, les premiers Pixels qui ont été vendus en France, c'est les 3, il y en a pas eu avant. En Allemagne, même chose. Au Royaume-Uni, je pense que le premier Pixel c'était le 2, et tous les autres pays l'ont pas. Donc, on est très très loin d'être dans un monde idéal. Et d'ailleurs, en marge de ce que je dis, on peut aussi se dire que le grand gagnant de l'histoire là, c'est clairement Samsung là, parce que il récupère des pays entiers en clientèle acquise.
Ouais. Ah ouais, clairement. Puis dans un secteur professionnel aussi, là, ça va faire mal. En Europe, il y a des questions à se poser sur justement ça, parce que il y a rien d'européen là dans tout ce qu'on vient de parler.
Bah il n'y a absolument rien.
Non. C'est clair. C'est
un peu d'avoir racheté Nokia et ouais. l'avoir mis au vidange. Mais voilà. ouais.
C'est clair que de toute façon l'Europe de ce point de vue-là est un peu à la ramasse. Bon après on dit ça, mais heureusement qu'il y a Google, hein, parce que bon par exemple tu regardes Motorola, c'est plus tellement américain non plus. Donc aujourd'hui des fabricants de téléphones américains, à part Apple, il y a quand même pas grand monde quoi. Et Apple est une place un petit peu particulière de ce point de vue-là.
Mais moi j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir si d'après vous ce qui vient d'arriver là, dans les 48 dernières heures. Là, si, admettons, dans 90 jours, le gouvernement américain dit « Ah bon, ben, on va laisser faire », tous les doutes qui ont été semés, est-ce que ça peut faire que Huawei va disparaître du marché mondial, en dehors de son marché premier? En fait, est-ce que ça fait assez mal au niveau marketing, publicitaire à Huawei, ce qui est arrivé dans les derniers 48 heures, d'après vous?
Moi, je pense que ça fait très très mal. Je pense que la plupart des utilisateurs qui ont fait le choix d'Android, ils ramènent leur téléphone là maintenant. Là.
C'est en boutique. Tu n'achèteras pas un Huawei aujourd'hui, ça c'est certain.
Je serais plus circonspect quand même. C'est un sujet qui nous intéresse. Hein. On se retrouve ce soir pour en discuter. Mais je pense que malgré tout, il y a beaucoup de gens qui utilisent un téléphone Huawei ou Honor d'ailleurs et qui s'en fichent et qui sont pas au courant et qui se posent pas trop la question. Alors c'est clair que bon, si il y a plus de téléphone Huawei ou plus de téléphone Honor en magasin dans un an et demi quand ils voudront renouveler leur téléphone, là pour le coup forcément ils achèteront pas de téléphone Huawei ou Honor. Mais en attendant, tant que les téléphones continuent à se vendre avec un truc qui ressemble à Android, il y a forcément des gens qui vont se dire « Ah ouais, je sais que ce sera pas forcément supporté, je préfère prendre un Pixel 3 à la place ou je préfère prendre un Samsung à la place. » Mais je suis pas sûr que ce soit forcément problématique ou en tout cas rédhibitoire dans un premier temps.
En fait, c'est sûr que sur l'entrée de gamme, ça change rien, parce que ça, c'est pas des gens qui regardent l'OS, là. Ils en ont pas mal aucune idée, là. Mais quand même, sur le haut de gamme, tant que Huawei a pas une réponse claire, et je pense que ça joue beaucoup. Puis oui, effectivement, c'est vrai qu'on a tendance, parce que je pense que tous les trois, on consomme plutôt du haut de gamme, on a tendance à penser au marché du haut de gamme, et c'est vrai que effectivement, c'est pas le gros du marché, en tout cas du volume d'affaires, effectivement.
Ouais, exactement. Moi, pour tout vous dire, je pensais même l'inverse. Je me disais, c'est cool, peut-être que c'est quoi, c'est celui avec le zoom télescopique, c'est le P20, c'est ça?
Le P30.
Je me disais à tous les coups, il va y avoir des réductions sur le P30 dans les semaines à venir. Faut que je surveille. C'est peut-être l'occasion d'en toucher un pour pas trop cher.
J'ai effectivement regardé Kijiji toute la soirée hier en me disant, il y en a bien un qui va le vendre moitié prix. Là.
Ouais. Mais ouais.
Franchement, non, des machines. C'est vraiment des machines de guerre. Si vous tombez sur des rabais sur un P20, un P30 dans les petites annonces, sautez là-dessus, hein, parce que avant que dans les faits il soit plus du tout utilisable, ça va prendre plusieurs mois, pas juste 90 jours.
Hein. Voilà, exactement. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais c'est vrai que ouais, prof du web premier sur les bons plans tech. on te retrouve bien là. Mais non, mais c'est exactement ça. Après, bon, faut suivre et c'est clair que la société, le futur de la société, par contre, est clairement en question à échéance 2 ou 3 ans. C'est clair que si l'embargo entre guillemets reste en place, ça va être compliqué. On arrive quasiment à la fin. Je voulais juste vous poser en gros une dernière question pour résumer les choses. On a vu clairement, Huawei, il va falloir qu'il soit inventif, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez de Google dans l'histoire? Est-ce que vous pensez que Google, en faisant ça, finalement, vient de tirer une balle dans le pied d'Android? Bon, pour être honnête, moi, c'est un petit peu ce que je pense. Et que, bah, du coup, il y a beaucoup de, potentiellement, d'autres fabricants de mobiles qui vont peut-être regarder ça d'un œil un peu douteux. Ou alors, est-ce que vous pensez que, de toute façon, Google et Android sont complètement omniprésents sur l'OS smartphone et qu'il y a pas tellement d'autres alternatives et donc du coup ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Moi personnellement, c'est toujours très complexe ces histoires-là. On les saura dans 10-15 ans tout ce qui s'est passé. Je pense que ça peut faire, comme je l'ai dit tantôt, quand il y a une crise et que là qu'il y a des changements, c'est clair que Google va en faire avec Android. Je veux pas croire que Google veuille continuer. Hey, c'est des ingénieurs de haut niveau. Ils peuvent pas continuer à faire d'un côté Fuchsia, de faire de l'autre Android. Puis comme on sait que cette compagnie-là ou leurs ingénieurs veulent souvent changer, amener des nouvelles technologies, avancer, et ainsi de suite, des fois repartir à zéro, c'est sûr que ça peut faire l'affaire de certains. D'un autre côté, au niveau politique, il y a sûrement quelqu'un qui s'est fait tordre un bras chez Google parce que quand même, c'est une bonne part de marché qui vont se faire, qui va se faire dilapider dans pas longtemps avec ouais. Ça fait quand même mal. Là. C'est, puis oubliez pas un truc là, c'est Huawei, mais c'est aussi des développeurs qui vont plus avoir des applications sur beaucoup, sur moins de stores. C'est, il y a plein de trucs comme ça en arrière. Il y a des fabricants qui fabriquaient pour Huawei, des fabricants américains qui fabriquaient pour Huawei. Je pense Gorilla Glass, c'est pas une firme américaine ça.
Si quand même.
Ouais, tu sais, il y a toutes sortes de trucs qui font affaire avec Huawei. Alors, ça fait mal. Je pense qu'ils ont pas mesuré. D'après moi, Google a très bien mesuré les choses, mais ils ont dû se faire tordre un bras par le gouvernement américain. Maintenant, effectivement, dans chaque problématique, il y a toujours une opportunité. Puis, je pense que là, c'est peut-être l'opportunité de commencer à tirer la plug ou tirer le fil pour commencer à embarquer Fuchsia, comme tu disais, PO.
Pas de ton point de vue sur la question.
Moi, en tant que développeur et ex-entrepreneur et pas juste développeur d'appli, puisque j'ai fait aussi des versions d'Android pour des fabricants de téléphones, de box télé, j'entends, et un certain nombre d'autres types de terminaux.
Ouais, donc la machine à laver dont je parlais tout à l'heure, ça te parle en fait.
Et il y avait déjà une espèce de grogne, de frustration. On va être un peu plus mesuré. On va parler de frustration qui montait parce que, comme je l'ai dit tout au long de l'émission, il y a de moins en moins de nouvelles fonctionnalités dans l'OS et de plus en plus dans Google Play Services pour des bonnes raisons, hein, des raisons de mise à jour notamment.
Sécurité, ouais.
Tout à fait. Mais aussi, clairement, pour des raisons de stratégie, d'opportunités commerciales. Là, le fait de se dire que, à travers Google, on est à la merci du gouvernement américain, qui semble, en tout cas de l'extérieur, de moins en moins rationnel et de plus en plus impulsif, cette frustration, elle se transforme en besoin d'aller voir ailleurs, clairement, parce que quand on est dans le monde des affaires, on aime la stabilité, on aime la prévisibilité, et puis on aime les marchés qui sont pas chers à dont le ticket d'entrée est pas cher. Puis là, s'il faut redévelopper toute la stack des services Google pour pouvoir rentrer sur un marché, ça devient extrêmement cher. Donc, à mon avis, c'est clair que, enfin, j'ai tendance à dire que l'une des principales victimes dans cette histoire-là, c'est quand même Google. Et je pense que, et en particulier la division Android, je pense que ça va être assez difficile dans les relations d'affaires, business à business, de discuter à partir d'aujourd'hui.
Ouais. Et avec tout le monde, pas seulement avec Huawei ou les compagnies chinoises, mais avec n'importe
exact.
Quel fabricant de mobile. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on va rester là-dessus. Débat passionnant. Je vous remercie vraiment beaucoup de l'avoir eu avec moi. Juste pour conclure, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie de vous suivre sur Twitter ou ailleurs? Matt, je te laisse commencer.
Bah profduweb.com. Vous allez trouver tous les liens qui vont bien. Et si vous recherchez une princesse technologique qui aime les affaires chères et les bons plans Internet, c'est moi qui vais venir voir.
Voilà. Et ouais, si vous avez envie d'écouter Matt, il y a plein de podcasts. Enfin, plein. Quatre podcasts, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Trois, ouais. Ouais, le mien, ReLife, Apple différemment, puis mon Streetcast.
Voilà.
On s'amuse beaucoup du côté du life hacking, du développement, de l'amélioration du quotidien.
Exactement. Avec Guillaume Vendée, on lui passe le bonjour. Et toi, Pod, où est-ce qu'on te retrouve?
Twitter, finalement, c'est le bon endroit. J'ai du mal à le dire parce que pendant longtemps, j'étais un petit peu en désamour avec la plateforme, mais ça a l'air que je me connecte tous les jours de nouveau. Donc, Twitter et mon pseudo, c'est Crovax. Ça date d'il y a très, très longtemps, alors je m'expliquerai pas.
Voilà. Crovax avec un zéro, c'est ça, non? En lit?
Avec un zéro, ouais.
Ouais, c'est ça. Zéro à la place du haut.
J'étais jeune.
Voilà. Et donc moi c'est @léthargiquepanda sur Twitter et puis ckbshow.fr, je crois, je m'en rappelle plus. Ckbshow.fr si vous voulez en savoir plus sur l'actualité des Chromebooks et d'Android et de Google en particulier avec l'ami Nico. Voilà. Allez, bah écoutez, merci de nous avoir suivis et puis à bientôt. Ciao. Je vous laisse dire ciao.
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 Voilà.